Voilà, donc moi je me présente, je suis Santiago Mendieta, je suis journaliste, auteur, et par la force des choses, je suis devenu éditeur. Je vous expliquerai peut-être pourquoi tout à l'heure. Et donc je suis le directeur, fondateur, rédacteur en chef de cette revue qui s'appelle Gibraltar, un pont entre deux mondes, qui est une revue de récits. Qui évoque les mondes méditerranéens. Alors, on a beau être à Bordeaux, je sais que l'arc atlantique est important ici, mais je pense que vous êtes des lecteurs et donc vous êtes intéressés aussi par les mondes méditerranéens, la Méditerranée en général, l'actualité pleine de faits, d'évolution de pays qui sont en crise ou qui vont mal ou qui se libèrent ou qui évoluent. Voilà, donc c'est Gibraltar, ce n'est pas une revue d'actualité, mais c'est une revue. Donc, il sort tous les 6 mois, donc c'est une revue semestrielle, mais qui veut parler un petit peu de ces évolutions. Alors, on n'est pas une revue universitaire ou d'histoire, on s'appuie peut-être sur des travaux historiques ou autres, mais on n'est pas là pour déverser un savoir, on est plutôt là pour proposer des récits en termes de récits littéraires, de récits journalistiques, en termes de récits de voyage, à travers bien sûr du texte, à travers de la photographie, et à travers du dessin, de l'aquarelle et même de la bande dessinée. Voilà, donc c'est pour ça que nous avons invité, j'ai invité Bruno Lotte qui vous parlera un petit peu de son travail, puisque dans le deuxième numéro de notre revue là, qui est sorti cet été, Bruno, qui est de la région, puisqu'il habite pas loin d'ici, à Mâcon, on peut le dire, il a pris le train, donc il n'est pas loin. Et voilà, il a réalisé cette BD, vraiment c'est un travail d'auteur, de dessinateur, mais également d'auteur, qui s'appelle Dolores, qui est un très beau travail sur, un épisode de la guerre d'Espagne. Voilà, donc je vous expliquerai un peu la genèse de ce numéro. Voilà, donc Gibraltar, un semestriel, qui est vendu en librairie, donc qui est présent ici à Mola, qui est vendu également un petit peu sur Internet, et par abonnement. Voilà. Donc je suis éditeur, fondateur de la revue, et donc c'est une toute petite structure. Et on va dire que Gibraltar est un peu dans la lignée de ces revues, entre guillemets, ou de ces MOOC, moi je n'aime pas trop ce terme franglais, grosso modo, qui est un condensé de magazines et de books, magazine-livre, moi je préfère dire magazine-livre, où effectivement ça a fait florès depuis quelques mois ou quelques années. Bon, évidemment, le premier exemple qui vient en tête, c'est la revue 21, qui est quand même, pour moi, le frère aîné de Gibraltar, en sachant qu'on se démarque de ce type de revue en ayant une thématique sur la Méditerranée, les mondes méditerranéens, mais au sens très large, sur des cultures méditerranéennes, et en publiant également des récits de fiction. Voilà, ça, je ne l'ai peut-être pas assez dit. On publie de la nouvelle, on reprend peut-être des extraits de romans qui sont dans nos thématiques. Par exemple, sur ce numéro 1, où on avait un dossier sur les migrants méditerranéens, d'où le titre Gibraltar. Gibraltar, évidemment, ça évoque le détroit de Gibraltar, avec cette idée de proximité entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée, avec cette idée de proximité, puisque sur le détroit de Gibraltar, vous avez à peine, dans la partie maritime, 12 kilomètres à peine, entre les côtes africaines et les côtes espagnoles. Il y a 12 kilomètres, donc cette idée de proximité aussi, de fermeture, avec la volonté de l'Europe de se protéger de gens qui essaient d'améliorer leur vie, leur ordinaire, donc les migrants, les sans-papiers, qui essaient de passer. Effectivement, actuellement, sur Gibraltar, c'est absolument pas possible. D'où, effectivement, des gens qui contournent et qui passent soit par le Moyen-Orient, soit par la Grèce, via la Turquie, ou pire, qui font la traversée par la Libye, très dangereux, le Sahara, très dangereux, et qui traversent la Méditerranée jusqu'à Lampedusa, avec, vous savez, ces cohortes de migrants qui se noient. Donc début octobre, là, il y a eu 360 personnes qui se sont noyées, femmes, enfants. D'ailleurs, dans le troisième numéro, on fera quelque chose là-dessus, sur cette histoire de Lampedusa, en essayant de regarder, de faire un portrait des habitants de Lampedusa. Voilà un petit peu le cadre général. Je vais peut-être donner la parole au régional de l'étape, Bruno, peut-être qu'il va nous parler un peu de son travail, puisque il est auteur de cette bande dessinée qui s'appelle Dolores, mais également il a signé une série qui s'appelle Hermon, qui est l'histoire, c'est 6 albums, qui est l'histoire d'un enfant plongé dans les affres de la guerre civile espagnole. Voilà. Et également, il est auteur d'une série, je vous en prie. Je vous en prie. Qui a fait une série qui s'appelle Ouvriers et apprentis, voilà, qui parle du monde du travail. Voilà. Donc peut-être quelques mots, Bruno, sur ton travail en général.
Moi, je suis de passage sur Gibraltar, puisque en fait c'est une rencontre avec Santiago qui m'a proposé de faire, qui m'a donné carte blanche pour une dizaine de pages dans le numéro 2 traitant de la mémoire à vif. Donc la mémoire et la Méditerranée, j'étais sur mon terrain de prédilection qui est la guerre d'Espagne, puisque j'ai une série, donc comme Santiago l'a déjà dit, une série sur la guerre d'Espagne déjà qui s'appelle Hermo, une série de bandes dessinées. Donc j'ai fait une bande dessinée là pour Gibraltar, 10 pages. Sur un événement de la guerre civile qui est la fin de la guerre civile du côté républicain avec la dernière ville, c'est-à-dire Alicante, qui va tomber et voilà aux mains des, qui va tomber aux mains de Franco. Et les 20 000 Espagnols républicains qui attendent sur la plage, qui attendent que les bateaux français ou anglais puissent venir les chercher. Pour les évacuer, pour l'exil. Le deal avec Franco était on vous donne. La République cède Madrid à condition que tous les Espagnols qui veulent partir puissent avoir un boulevard jusqu'à Alicante où ils pourront prendre des bateaux. Franco a dit OK, seulement il n'a pas tenu parole, c'est-à-dire que les bateaux français et anglais qui étaient aux abords d'Alicante n'ont jamais pu approcher, ils étaient bombardés par les canons italiens. Et donc ces 20 000 personnes sont restées là, sur la plage. Beaucoup se sont suicidés quand ils ont vu qu'il n'y avait aucun autre recours, plutôt qu'être aux mains des fascistes et puis voir tous leurs idéaux détruits, leur envie d'une vie nouvelle et d'une liberté. Tout ça a été terminé pour eux, donc beaucoup se sont donné la mort. D'autres ont réussi, quelques-uns ont réussi à fuir à la nage, et certains, beaucoup se sont noyés, comme aujourd'hui à Lampedusa, par exemple.
Dans des circonstances différentes.
Dans des circonstances différentes, mais c'est toujours une fuite. Alors aujourd'hui, on peut dire que la fuite, elle est due à l'économie et que ces migrants-là fuient un pays qui ne peut pas les nourrir, quoi. Et à l'époque, c'était plus on fuyait des idéaux et un pays dans lequel on ne voulait pas vivre de toute façon. On pourrait se poser la question, est-ce que ces deux histoires ne sont pas reliées, justement ?
Alors justement, le récit là, qui s'appelle Dolores, peut-être précise-nous un peu les circonstances.
Relie le passé, le présent, justement,
voilà, mais à travers le regard d'une petite fille.
Voilà, à travers petite fille qui est sauvée à ce moment-là. Donc, ses parents lui attachent deux valises vides pour qu'elle puisse flotter et la jettent à la mer. Et cette petite fille survivra. Et donc, bien des années plus tard, dans une maison de retraite, une vieille dame, le début de l'histoire commence comme ça, ça se passe dans une maison de retraite, une vieille dame qui a la maladie d'Alzheimer et qui se met à parler espagnol et dont la fille commence à se demander d'où est issue sa mère. Et donc, elle fera toute une enquête et arrivera à la conclusion que je vous ai dite. Quoi. Voilà. Bon,
il ne faut pas trop révéler la fin. Mais disons, voilà, grosso modo, voilà, ça permet de parler voilà, de cette mémoire qui était enfouie, hein, puisque c'était un traumatisme. Hein, et donc, je trouve que tu as réussi, puisque moi, c'est une commande hein, en tant qu'éditeur. Moi, j'ai commandé... Non pas cette idée, moi j'avais donné un cadre très général qui était de dire, voilà, il y a cet épisode d'Alicante, mars 39, la fin de la guerre civile, l'effondrement de la République espagnole, qui était quand même un régime démocratique, élu démocratiquement à l'issue des élections de 36, le putsch des généraux, et puis effectivement, une tourmente générale, une guerre civile atroce, comme on a peut-être pu la voir en ex-Yougoslavie, hein, si on doit comparer, bien que les choses ne soient pas comparables, dans une période très troublée, les années 30, la montée du fascisme, hein, tu l'as dit. Voilà. Et donc, moi, j'avais donné un cadre très général, et après, le travail d'auteur de Bruno a imaginé cette petite fille, cette maison de retraite, voilà. Et c'est fait vraiment avec beaucoup de sensibilité. Voilà. Et tout ça, en fait, ça... Ça illustre le dossier de ce numéro 2 qui est voilà, les enfants de la mémoire à vif, qui est de parler de ces enfants héritiers d'une mémoire difficile à l'issue de conflits qui se sont terminés mais qui ne sont pas résolus, qui continuent par cercle concentrique à causer des dégâts. Donc en Espagne, c'est effectivement... Le souvenir de la guerre civile d'Espagne, 75, 80 ans après, on s'aperçoit qu'il y a encore des choses qui émergent, les bébés volés du franquisme. On a volé des bébés dans des cliniques jusqu'à une période assez récente, hein, qui était les années 90 jusqu'en 95. On a dit sciemment à des femmes qui accouchaient, des femmes seules, des femmes souvent issues de milieux défavorisés ou de gauche, on leur a dit que voilà, leur bébé était décédé lors de l'accouchement, alors que c'était un mensonge éhonté. Et bon, voilà, c'est un détournement de bébés, voilà, avec un trafic de bébés, véritablement, qui était quasiment, fait à grande échelle sous Franco avec les prisonnières républicaines dans les prisons de Franco après 1939, et qui ensuite s'est transformé en quelque chose pour de l'argent ou mafieux, avec malheureusement la hiérarchie catholique qui a couvert tout ça. Voilà. Donc, ça, c'est une histoire dramatique que nous. Voilà, on aurait pu raconter sous forme d'un récit et qu'on l'on raconte en utilisant un documentaire qui est passé sur France 3, qui s'appelle « Les bébés volés du franquisme, ¿dónde estás ?»« Où es-tu ?» en espagnol. Et on a utilisé ce qu'on appelle des captures écran, c'est-à-dire on a fait des arrêts sur image sur le documentaire et on a pris comme ça 5-6 scènes qu'on explique et qui permettent d'évoquer cette problématique, tout comme il y a un travail d'un photographe catalan sur des fosses que l'on exhume avec un très beau sujet noir et blanc, avec le souvenir d'un instituteur qui avait marqué des élèves dans un petit village de la province de Burgos, dans le nord de l'Espagne. Vous voyez, c'est un monde méditerranéen large. Et effectivement, on retrouve le souvenir de cet instituteur qui a été assassiné, qui est quelque part dans une fosse, on ne sait pas où, et on exhume des fosses. Et là, les gens du village se rappellent. Alors les gens, aujourd'hui, ils ont 70, 80 ans, et ils se rappellent de cet instituteur aux idées généreuses, et qui est quelque part, on ne sait pas où, et qui avait promis de les amener voir la mer. Imaginez, en 36, pour des enfants de zones rurales défavorisées, un instituteur qui les fait travailler avec une petite imprimerie à main, type méthode Freinet, et qui leur promet d'aller voir la mer sur la côte catalane. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont gardé. Certains avaient gardé les devoirs, avaient gardé les petits livres renéotypés. Enfin bon, voilà, il y a une très, très belle histoire. Donc on exhume à travers cette histoire, tout comme, par exemple, on traite également du problème du génocide arménien à travers le portrait d'un acteur de théâtre et de cinéma qui est assez connu, qui s'appelle Simon Abkarian. Hein, celui qui a tourné avec comment s'appelle-t-il, Robert Guédiguian dans l'Armée du crime, hein, à propos de l'affaire Manoukian et de l'affiche rouge. Hein, donc ça, c'est pendant l'occupation. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a une figure assez particulière, avec une belle moustache. Et donc c'est quelqu'un qui est né dans une famille arménienne et qui porte avec lui cette blessure, même s'il n'a pas vécu. Voilà, hein, ce visage vous dira quelque chose avec ses belles moustaches. Voilà, il fait vraiment arménien. Et il porte en lui cette souffrance du peuple arménien, même si effectivement ça s'est déroulé en 1915, hein, le génocide par le régime des jeunes turcs. Voilà, donc on le traite d'une façon non pas frontale, mais par une façon un peu détournée, et où il explique, Simon Abkarian, comment il s'est débarrassé de sa haine des Turcs, en devenant acteur, en devenant artiste. Voilà, il s'est débarrassé de ce fardeau qui lui pourrissait la vie. Voilà, donc je trouve que c'est un très très beau texte qu'on publie. Voilà, donc, et ensuite, à part le dossier et le dossier sur la mémoire à vif, on a également d'autres sujets, comme par exemple un portrait de Camus le Méditerranéen, un sujet sur l'aéropostale, hein, donc qui part de Toulouse et qui longe toutes les côtes méditerranéennes, avec la saga de la Teco Air, qui va donner naissance au bout du compte à Air France, hein, en 1936. Vous voyez, 36, une autre date, mais également une nouvelle sur le roi d'Ithaque, qui est une sorte d'Ulysse, d'un avatar d'Ulysse aujourd'hui, en 2013, qui débarque sur la côte espagnole à Benidorm, une côte ultra bétonnée, ultra touristique. Et il y a un récit que je trouve très plaisant de David Torres, qui est un écrivain espagnol qu'on a traduit, et voilà, qui nous fait voilà, une sorte de, une idée de, un récit autour d'une vengeance, et c'est vraiment autour du mythe d'Ulysse. Ulysse qui revient parmi nous, et qui découvre un peu cette côte méditerranéenne un peu sacrifiée, et qui, voilà, il est grec, et qui essaie de se venger d'un banquier véreux, d'un banquier grec, voilà, sur fond de crise espagnole et grecque. Voilà, donc on essaie de mélanger des choses. Tout comme également, on traite un sujet très fort qui est de parler de la Jonquière. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. C'est un village à la frontière franco-espagnole, en Catalogne, du côté du Pertus, qui est une sorte de supermarché du sexe, hein, puisque la prostitution y est tout à fait légale et où il y a des établissements où beaucoup de Français vont s'encanailler. Donc voilà, on a un récit, analyse par un universitaire de Perpignan.
Il y a un film d'ailleurs qui parle de ça, qui est... Oui. Hasta la vista.
Hasta la vista. Alors,
qui sauf que c'est l'histoire belge. C'est un film belge qui est l'histoire de trois handicapés qui partent justement vers cet Eldorado quoi, du la sexe. Jonquière.
Voilà, donc nous on le traite à travers un récit un petit peu charpenté, un universitaire, qui évoque un petit peu, voilà, c'est. Voilà, cette histoire de mobilité des prostituées entre l'Afrique, l'Europe centrale et l'Espagne. Voilà, il explique vraiment tout ça, ça fait froid dans le dos, et où on voit qu'effectivement ce lieu est un lieu low cost, où effectivement on peut acheter du tabac, de l'alcool, et puis également consommer, entre guillemets, des femmes, en général, jeunes, jolies, etc., avec des stéréotypes, les filles d'Europe de l'Est, plutôt que les Américaines du Sud, qui sont maintenant passées de mode, et les Africaines, voilà. Donc on est vraiment dans de la marchandisation, voilà, marchandisation des corps, et on a fait ce papier alors qu'il n'y avait pas encore ce débat qu'il y a aujourd'hui en France sur la pénalisation de la prostitution avec le projet de loi. Voilà, donc on essaie, voilà, de non pas être dans l'air du temps, mais voilà, de traiter des problématiques d'aujourd'hui. On est vraiment de l'édition. Mais c'est vrai qu'il y a du journalisme dedans. Voilà. On n'est pas vendu en kiosque, par exemple. Ça serait trop compliqué, ça nous obligerait à faire trop de tirages, donc on est vendu en librairie. Donc ne le cherchez pas chez votre marchand de journaux. Donc voilà, chez Mola. Et puis, bon, après, on peut nous trouver sur Internet, on peut s'abonner, bon, voilà. Voilà, en tout cas, voilà, je vous remercie de votre présence. Voilà, merci.